Radio Campus Lille, 8h.
Au cœur du centre-ville, je suis libraire, je suis fleuriste, café ou restaurant. Mes clients viennent me voir, je les connais souvent. Je les conseille, je les comprends, je suis essentiel, vous pouvez me croire, je suis essentiel, je suis essentiel.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le premier lundi du mois et comme tous les premiers lundis du mois de 8h à 9h, eh bien c'est l'heure de Tous Essentiels. Tous Essentiels, une émission présentée par Virginie. Bonjour Virginie.
Bonjour Max, et puis animée par Max pour la musique, la technique, la bonne humeur.
Ça va bien?
Et toi?
Ben oui, très bien.
Il fait beau, on est en plein été. Bonjour Jean-Noël.
Bonjour Max, bonjour Virginie, bonjour à tous.
Alors on a en plus trois étudiants avec nous qui viennent faire un stage et découvrir Radio Campus. Donc voilà, je leur ai dit si vous voulez poser des questions, donc on verra au fil de l'émission. Jean-Noël Marzeau, alors comment te présenter? T'as un parcours quand même assez atypique. On est plutôt habitué aux philosophes, aux économistes. Et en fait, toi t'as commencé dans la pharmacie, spécialiste dans la toxico, les addictions, et du coup ça t'a amené au milieu carcéral et où tu as dit que tu avais remarqué un truc complètement hallucinant et pas du tout intuitif, que la délinquance ça venait souvent, même la majorité du temps, de la pauvreté finalement, d'insécurité qui mène à trouver d'autres moyens d'assurer sa subsistance. Donc t'en es arrivé à créer une version de revenu de base qui s'appelle Caisse commune pour aller vers une allocation universelle, et ton livre est sous-titré « Pour une révolution des prélèvements sociaux et fiscaux ». J'ai tout dit ?
Oui, tout à fait, oui. Oui, effectivement, j'ai commencé comme ça. Bon, j'ai fait des études de pharmacie, mais moi je suis déjà retraité, tu vois, donc c'est quelque chose qui date de quelque temps. Mais quand j'ai commencé mes études, et ensuite quand je me suis orienté vers l'étude des addictions, et que ça m'a orienté ensuite vers les prisons pour étudier quelle était la consommation de produits psychotropes en prison. J'ai fait beaucoup d'interviews dans ces prisons et je me suis rendu compte que finalement, le facteur commun à pratiquement toutes les personnes détenues qui étaient la toxicomane, c'était pratiquement dans la région parisienne et même dans le Nord, parce que j'ai aussi travaillé dans les prisons de Longnes, de Maubeuge, Paume c'est le Pas-de-Calais, en fait toujours ça, les Hauts-de-France, je me suis rendu compte que finalement, la misère dès la naissance, les conditions difficiles de vie ont entraîné toutes ces personnes vers la petite délinquance. Et je crois que c'est pas un hasard. Je crois que la misère est un facteur de difficultés sociales, de souffrance sociale. Et il faut vraiment essayer d'éradiquer cette misère pour arriver à une société plus vivable pour tous. Pour bien sûr toutes ces personnes, mais aussi pour l'ensemble de la société.
Donc supprimer la misère plutôt que de la soigner, je te cite. Si tu veux bien, on reviendra sur les attentes sociétales après. Je voudrais commencer d'abord par te faire passer à la moulinette de notre question rituelle. Est-ce que tu es prêt ? Alors imagine, à partir de demain, tous les mois, tu reçois suffisamment pour vivre. Ça tombe sur ton compte. Il n'y a rien à faire, c'est en plus d'autres revenus, et c'est jusqu'au bout de ta vie.
Bon, alors,
évidemment,
plaisir.
En tant que retraité, tu l'as déjà un peu.
Écoute, depuis que je suis à la retraite, c'est un peu ce qui m'arrive.
Oui.
C'est vrai que de façon générale, je n'ai pas grand-chose à faire pour pouvoir gagner de l'argent. Ça n'empêche pas de travailler dans toutes sortes d'associations, m'occuper de mes petits-enfants, de mes enfants, de beaucoup de choses. Mais c'est vrai que recevoir un revenu universel, comme ça, si ça m'arrivait aujourd'hui, en plus, de l'ordre de 800, 900 euros tous les mois, ce serait une bonne surprise. Et toutes ces surprises, on s'y habitue très vite. Mais la première fois, ce serait un choc. Je dis, tiens, c'est bizarre. Qu'est-ce qui m'arrive sur mon compte? Il y a 900 euros.
Et qu'est-ce que ça changerait pour toi, alors?
Alors, ça changerait pour moi la façon d'être plus souple avec l'argent. Pouvoir me dire que finalement je peux plus souvent sortir, aller plus au théâtre, aller dans des aller plus en vacances, profiter de la vie et surtout ne pas avoir de soucis, ne plus avoir, aujourd'hui avec ma retraite qui est correcte, hein, ne plus du tout avoir de soucis d'argent, ne plus devoir me dire je peux pas prêter à un tel parce qu'il en a un peu besoin, etc. Je vois quelquefois mes enfants me demandent un peu d'argent parce qu'ils ont besoin d'acheter une chose à une autre. Les soucis d'argent, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Tout le monde, même les classes moyennes, à part les gens très très riches, tout le monde a des petits problèmes d'argent. Il faut changer la voiture, tiens, il y a la réparation du lave-vaisselle, il faut le changer, etc. Avoir un peu d'argent en plus, je crois que c'est de toute façon un acquis.
Donc, au mieux, ça enlève une épée de Damoclès et ça, du coup, avec toute la charge mentale qui est liée. Et puis pour ceux qui n'ont pas, même pas le minimum de sécurité, ça leur apporte
alors,
ça, quoi.
Bien sûr, pour toutes les personnes qui vivent dans la précarité, c'est une assurance vie d'une certaine façon. Et je crois que c'est tout à fait fondamental. Mais même moi, dans ma vie en général, dans ma vie antérieure, ça m'aurait beaucoup aidé d'avoir des revenus pour être beaucoup plus autonome au moment de mes études, pour être plus libre vis-à-vis de mes parents. Plus aussi pour pouvoir dire non à un employeur. Quelquefois, on est un peu coincé, on se dit, bah, tiens, j'ai le loyer à payer, j'ai ça et ça à faire. On me propose un travail qui me plaît pas, mais je suis obligé de dire oui parce que j'ai rien d'autre. D'une certaine façon, pour être un peu caricatural, on est un peu esclave quand on est sûr de devoir travailler pour pouvoir manger, tout simplement.
Oui, j'entends qu'il y a autant une dépendance, ben, peut-être même affective, en tout cas ça mélange un peu l'amour et l'argent dans la famille en termes d'autonomie quand on est jeune et bon. Après dans le milieu de l'emploi, tu dis que ça pourrait je sais pas, peut-être nous aider à mieux choisir ou négocier des conditions de travail ou un travail qui ait du
absolument.
Sens.
Puis tu sais, l'argent c'est un peu le sang de pour un humain, le sang c'est ce qui circule et le sang de la vie économique, finalement, c'est cet argent qui circule. Et quand on n'en a pas du tout ou très très peu, on est finalement, d'une certaine façon, prisonnier d'une vie qu'on n'a pas choisie. Et ça, c'est un droit fondamental de l'homme, de l'homme et de la femme, de l'humain, de pouvoir choisir ce qu'on a envie de faire.
Une forme de dépendance, quoi.
Oui.
Est-ce qu'il y a un jeune autour de notre table qui voudrait dire qu'est-ce qu'il ferait avec son revenu de base ? Vous qui êtes en seconde, en stage, qu'est-ce que ça changerait si vous disiez, bah tiens, je sais qu'à partir de 18 ans, au moins, parce que la plupart des versions, c'est avant, voilà, vous avez sur votre compte à vous. Oui, Léon ?
Moi, je pense qu'on va plus économiser et attendre pour après. Parce que si tu dépenses tout ton argent d'un coup, je sais qu'il y aura les contraintes, par exemple, de loyer. Il y aura beaucoup de contraintes. Bah, le loyer, les factures. Si t'as une voiture, il y aura l'essence. Si t'as des enfants, t'auras bah, les habits, la nourriture à leur payer. Peut-être le médecin s'ils sont malades. Moi, faut économiser, mettre de l'argent de côté et toujours essayer de faire mieux après. Et d'avoir toujours de l'argent de côté en cas, du coup, de ces problèmes dont on a parlé. Comme la voiture cassée, par exemple.
Voilà. Du coup, tu fais pas partie de ces jeunes qui crameraient tout, parce que les jeunes, c'est bien connu, non ? Non ? Toi, t'économiserais, tu mettrais de côté, parce que c'est très mature comme réflexion.
Ben, d'un certain côté, oui. Bah, avant, j'étais plutôt du genre à, dès que j'avais un peu d'argent, tout dépenser. Là, maintenant, je suis plus dans l'économie et pour m'acheter un plus gros truc au fur et à mesure. Mais oui, c'est pour moi, c'est une meilleure aide pour ta vie future d'économiser. Que de tout claquer d'un coup.
Ok. Du coup, le fait d'avoir de l'argent, à la limite, ça te permet d'apprendre à économiser pour et anticiper. Tu parles déjà de la vie de famille. Tu te projettes loin, du coup, finalement. C'est intéressant. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a envie de... Alicia ?
Bonjour à toutes et à tous. Et bonjour à notre invité. Alors, personnellement, je ne suis pas en seconde. Je suis en troisième année de licence. Information et communication. Et j'ai bientôt 21 ans. Et ça fait bientôt 3-4 ans que je suis partie de chez mes parents. Donc je suis seule. Et je suis partiellement indépendante financièrement. Mes parents m'envoient un peu d'argent de temps en temps. Mais c'est vrai que grâce à ce revenu universel, je serai plus sereine. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à un peu stresser par rapport à l'argent. Je me dis toujours, je vais manquer d'argent, il faut que je fasse attention. Peut-être que je peux pas me permettre, enfin, je ne peux pas me permettre certaines choses. Par exemple, je ne sais pas, aller au restaurant ou m'acheter un pantalon ou une paire de chaussures. Enfin, et même parfois, je dois faire attention parce que je ne peux pas manger de viande. Parce que ça pourrait dépasser le budget que j'accorde à mon alimentation. Et donc, c'est vrai que ce revenu universel me permettrait d'être, de me focaliser plus sur mes études, sans avoir ce stress de manquer d'argent, de manquer de nourriture, en quelque sorte.
Merci.
Voilà.
Jean-Noël, ça recoupe un peu de tout ce que tu as pu nous partager. Merci pour vos témoignages. Alors, par rapport
à... C'est intéressant parce que on voit qu'on n'est pas dans une société où on a une jeunesse de flambeurs.
Mais oui. Par rapport aux préjugés qu'on peut entendre partout.
Si on met un peu d'argent de côté, l'avantage du revenu de base, c'est que ça va tomber tous les mois. Donc on a même plus ce souci permanent d'avoir un peu d'argent de secours. Ça, c'est fondamental pour psychiquement, c'est important.
Ça tombe tous les mois. Et en plus, donc là, parce qu'on est entré par le côté plus individuel, mais comme tout le monde l'aura, alors tout le monde, ça dépend de voilà du périmètre législatif, etc., sur lequel on réussira à l'implanter. Mais puisque tout le monde l'aura, a priori, ceux d'à côté seront aussi sécures et il n'y aura pas besoin de prêter ou de... Tu parlais de tes enfants aussi, sans doute qui sont un peu plus grands que nos invités aujourd'hui.
Ah oui, il est né à plus de 40 ans.
Voilà, et du coup, ça veut dire qu'à plus de 40 ans, on peut encore avoir besoin d'un coup de pouce et qu'il y a une sorte de... Oui, tu parlais du sang économique qui circule encore dans la sphère familiale, là où, dans l'idéal, il n'y aurait que de l'amour, en fait.
Oui.
Un truc comme ça. Par rapport aux attentes sociétales...
Des preuves d'amour aussi.
Oui, que l'argent soit une preuve d'amour...
Quelquefois, pas
oui,
toujours. Hein.
Ça peut. En fait, ça ne devrait être que ça. Ça ne devrait pas être...
Ça devrait être que ça, ouais. Quelquefois. C'est l'ouverture à des conflits aussi, au sein des familles.
Mais oui, tout à fait. Par rapport aux attentes sociétales, est-ce que tu veux développer, du coup, ton allocation universelle, ce que tu en attends?
Je crois que c'est quand même essentiel au niveau de la société, parce que nous sommes dans une société qui est quand même relativement riche. Hein, le revenu moyen est supérieur à 2000 euros en France, et je parle du revenu par personne, hein, c'est le revenu personnel, pas le revenu de la famille, du foyer fiscal. Le revenu médian... C'est le revenu qui partage la France en deux catégories de personnes, toutes celles qui gagnent moins de cette somme et toutes celles qui gagnent plus de cette somme. Et le revenu médian est de l'ordre de 1800-1900 euros par mois. Et donc, il faut savoir que dans une société relativement riche, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Il y a beaucoup de gens qui sont au RSA, un peu plus de 500 euros par mois, avec des difficultés pour l'obtenir, avec la suppression du RSA s'ils ont un petit travail en plus. Et donc, on est dans une société qui est extrêmement injuste pour beaucoup de personnes. Nous sommes dans une société où il y a des gens qui sont des milliardaires. Et on n'imagine pas tellement ce que c'est qu'un milliardaire. Un milliardaire, c'est quelqu'un qui a 1000 millions. On imagine peu ce que c'est. Un million, on voit ce que c'est, c'est une belle maison, c'est déjà bien. Mais 1000 millions, c'est, on dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais on dit que Bernard Arnault pourrait être propriétaire de toutes les maisons construites à Marseille et à Bordeaux. L'ensemble de l'immobilier de Marseille et de Bordeaux pourrait lui appartenir s'il décide de les acheter. Donc c'est quand même quelque chose d'un peu... C'est extravagant.
Je ne sais pas s'il a assez de nuits pour utiliser tous les lits qu'il y a là-dedans, mais...
Non, en tout cas... C'est pour donner une image. Oui. Une image de ce que c'est que les fortunes, les grandes fortunes. Mm. Et c'est ces grandes fortunes qui s'enrichissent, d'une certaine façon, de la pauvreté du reste de la société.
Oui, parce que si on met le 2000 euros à peu près de revenu médian au regard du à peu près 1000 euros du seuil de pauvreté et à peu près 500 euros du RSA, en sachant qu'il y a des personnes qui sont à zéro, qui ne gagnent rien,
oui.
C'est les fins de droit ou tous ceux qui ont des soucis avec
le RSA,
leur dossier, etc.
C'est un parcours du combattants pour l'obtenir, ce RSA.
De plus en plus, oui.
Et ça touche des personnes qui sont les plus précaires, qui n'ont pas Internet pour remplir tout ce qu'il faut. Enfin, c'est...
Donc on a des personnes qui sont à zéro, on a des personnes qui sont à moitié du RSA, à moitié du seuil de pauvreté, on a des personnes qui sont tout juste au seuil de pauvreté, à peu près aussi le seuil de pauvreté, le SMIC est à peine au-dessus, et la moyenne, enfin le revenu médian, c'est 2000, quoi. Donc comment on peut accepter que des personnes qui soient en dessous de 1000 même puissent exister en France, quoi. C'est complètement hallucinant.
Voilà, c'est pourquoi je pense que le revenu de base, c'est le revenu qui doit être donné à tout le monde pour pouvoir sortir de la misère. Le seuil de pauvreté, c'est défini de façon un peu artificielle. Hein. On dit que c'est la moitié du revenu médian. Donc les gens ne savent pas toujours ce que c'est que le revenu médian, mais on peut le dire, hein, c'est de l'ordre de 1 800 euros par mois. La moitié du revenu médian, c'est 900, c'est un peu plus de 900. Et donc on devrait pouvoir donner... à toute la population, enfin je dis toute la population, c'est tous les adultes, hein. À partir de 18 ans, on ne peut pas donner à un bébé de l'argent, ça ne veut rien dire. On va donner à ses parents pour qu'ils aient quelque chose. C'est ce qu'on appelle les allocations familiales. Mais pouvoir donner à toute la population, et tout au long de la vie, à partir de 18 ans, le minimum qui permet d'être au-delà de la misère, c'est-à-dire les 800, 900, 950 euros, 1000 euros, on est dans ces eaux-là, hein, pour avoir un revenu correct comme revenu de base. Et donc, il faut trouver les moyens de financer.
Alors justement, avant de passer, on va laisser un peu de teasing, une petite pause musicale. Et juste après, promis, on vous dit, mais comment concrètement Jean-Noël nous a préparé son allocation universelle ?
La recette.
La recette.
Et on va écouter Ignatius, qui lui a trouvé une façon toute particulière pour gagner de l'argent. Assure que ce soit tout à fait honnête.
22983, take one.
Je sais que tu n'es pas d'accord avec la façon dont parfois je traite les gens. Tu sais, ça n'est pas si facile de s'assumer, mais il faut bien gagner de l'argent. Alors, tu n'as que 18 ans, mais bientôt tu comprendras mes difficultés. La chance ne m'a pas toujours souri, et c'est vrai que je ne peux plus vraiment reculer. Mais l'argent, 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 de l'argent pour les gens, de l'argent, de la thune, du flouze, du blé, sans sortir, sans argent, c'est compliqué. L'argent, l'argent, l'argent. Que toi t'es bien content de pouvoir profiter de la situation. Mon job te cause moins de problèmes de conscience quand tu veux que je te file du pognon. Bien sûr, assassiner des gens, ça n'est pas ce qu'il y a de mieux comme profession. Et j'espère que bientôt tu trouveras un boulot qui répond à tes aspirations. Mais l'argent, 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 de l'argent pour les gens, de l'argent, de la thune, du flouze, du blé, sans sortir, sans argent, c'est compliqué. L'argent, l'argent,
sans sortir, sans argent, c'est compliqué.
Voilà, c'était Ignatius sur les ondes de Radio Campus 106,6 et on continue avec Tous Essentiels, l'émission du Revue de Base.
Jean-Noël, on revient vers toi avec la question d'Alicia.
Oui. Alicia.
J'ai une question à vous poser. En fait, quand j'ai entendu votre projet, je me suis dit que c'était bien beau, excusez-moi, mais je ne sais pas si c'est vraiment possible de le financer.
Oui, c'est une question qui se pose immédiatement. C'est vrai qu'à partir du moment où on parle de revenus de base, beaucoup de personnes disent ça va empêcher les gens de travailler, les gens ne feront plus rien, etc.
Oui, c'est ça.
Mais la question principale tout de suite qui se pose, c'est mais comment vous allez pouvoir donner à toute cette population de l'ordre. En France, c'est 50 millions de personnes qui ont plus de 18 ans. De 18 ans à la mort, en gros. C'est un peu plus de 50 millions de personnes. Comment on va pouvoir donner de l'ordre de 800, 900 ou 1000 euros à 50 millions de personnes? Ça, c'est important de donner des réponses à ça, parce que ça se pose immédiatement comme question. Mais il faut savoir que pour toutes ces personnes, il existe déjà beaucoup de revenus qui permettent à ces personnes de survivre. Il existe le RSA, il y a des primes de rentrée scolaire pour les familles donc, qui ont des enfants, il y a des primes de... Il y a même des primes pour l'électricité, primes d'énergie, primes de je sais pas quoi, primes de Noël. Il y a toutes sortes d'aides qui sont données de façon d'abord parcimonieuse et puis en plus des aides dont il faut prouver dont on a vraiment besoin. Et ça, c'est un peu compliqué. Ces aides coûtent relativement cher et en plus, on a besoin de contrôler. Et ces contrôles coûtent très cher aussi. Et donc tout ça, c'est des économies qui seront faites si on a un revenu de base. Et puis il y a d'autres moyens, il faut prendre l'argent là où il est. Si on veut que tout le monde participe et qu'il n'y ait pas de différence entre les contributeurs et les non-contributeurs, entre les personnes qui payent et celles qui reçoivent sans jamais donner, on n'a pas de solution. La seule solution, c'est la TVA, parce que la TVA, tout le monde la paye. Alors je peux dire ce que c'est que la TVA. C'est une taxe qui est prise sur l'ensemble de vos achats. Une taxe en gros de 20%. Hein. Il y a plusieurs niveaux de TVA en France, mais le niveau moyen, c'est 20%. Et on pourrait simplifier en mettant 20% pour tous les achats faits de produits. Hein. On achète un pantalon, on achète une voiture, etc. On peut dire qu'on a 20% de TVA. Et puis il y a 10% de TVA aussi, de façon générale, sur les services. Hein, quand on fait venir un plombier, quand on fait venir quelqu'un pour réparer l'électricité, on a une facture et sur cette facture, il est indiqué 10% de TVA. On aurait pu mettre 20%, mais à partir du moment où la TVA est un peu trop forte, on a des risques de petites triches, hein, en disant, ben, vous me payez en liquide et vous n'aurez pas la TVA à payer, par exemple. 10%, bon, ça fait partie des choses. En échange, on a une facture et quelquefois avec la facture, on a la garantie. Donc avec une TVA de l'ordre de 20% sur l'ensemble du matériel et 10% sur les services, on a des sommes qui permettent de donner déjà la moitié, à peu près la moitié, de ce dont on a besoin pour payer, pour abonder cette caisse pour un revenu de base. Et c'est important de savoir que finalement, grâce à la TVA, tout le monde participe, l'ensemble des personnes, même sans papier, même rien, ils n'ont rien du tout, mais ils achètent quand même quelque chose pour manger, ils achètent quelque chose pour se vêtir, etc. Et donc ils participent à la caisse pour l'abondement de ce revenu de base. Et en gros, cette TVA correspond à peu près à de l'ordre de 400 euros par mois et par personne pour l'ensemble de la population. Voilà, ça c'est la première partie. Alors effectivement, la TVA, c'est d'autant plus juste que ces personnes reçoivent le revenu de base, que plus on est pauvre, donc plus on a besoin de consommer l'ensemble de ce qu'on gagne, plus proportionnellement on paye de TVA. Quelqu'un qui dépense tous ses revenus pour acheter de la nourriture, de la viande, des habits, etc., cette personne va payer proportionnellement beaucoup plus de TVA, proportionnellement bien sûr, que celui qui se permet d'avoir sur ses 15-20 000 de revenus par mois, pouvoir économiser 30 ou 40 000 qu'il met sur un compte à côté de ses dépenses et sur lesquelles il ne paye pas de TVA. Voilà, donc ça explique pourquoi ça justifie d'une certaine façon la TVA est un bon moyen d'abonder une caisse pour un revenu de base. Et puis la deuxième partie, bien sûr, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est un impôt sur le capital, un impôt sur l'actif net, sur ce que possèdent les personnes de façon individuelle. Est-ce que j'ai répondu à la question ?
Oui, vous avez répondu à ma question.
Alors, il y en a une deuxième qui se présente avec Léon.
Oui.
Alors, ma question, elle va porter aussi sur le système de financement. Vous parlez de mettre en place un impôt. Du coup, moi, je trouve ça bien. Mais comment voulez-vous faire passer cet impôt auprès, du Sénat ou alors de l'Assemblée nationale ?
Alors, c'est un petit peu compliqué parce que ça demande effectivement des changements politiques. Et c'est quelque chose qui nécessite un changement de majorité. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec les pouvoirs actuels, le pouvoir actuel n'est pas du tout prêt à changer de système. Au contraire, il dit que on a entendu Macron de dire c'est un revenu, des dépenses énormes, une sorte de folie ce qu'on donne pour aider les précaires. Alors qu'on pourrait trouver un système beaucoup plus simple, mais effectivement, c'est pas tout à fait dans les visions des gouvernants d'aujourd'hui. Ça implique effectivement un changement de paradigme. Il faut que on ait une majorité qui accepte de modifier le système financier, le système de la protection sociale, et ça peut se faire qu'avec un changement politique. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis en sous-titre de mon bouquin « Pour une révolution dans les prélèvements sociaux et fiscaux ». Mais c'est quelque chose qui peut se faire, puisque même Chirac à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment de son élection, il avait proposé une TVA sociale. Il n'a évidemment pas fait. Mais il avait proposé qu'une partie de la TVA soit dédiée à la protection sociale. Et d'ailleurs, il s'est fait élire, il était passé à l'époque devant Balladur, qui était dans les sondages beaucoup plus haut que lui. Il est passé devant Balladur à partir du moment où il a proposé une protection sociale à la population, qui n'a pas été acceptée, bien sûr, ensuite.
Merci de ce rappel, parce que je crois qu'autour de la table, beaucoup qui n'étaient pas encore nés.
Oui, c'est une vieille histoire, mais parler de la TVA sociale, c'est quelque chose qui était dans l'air du temps, dans les années 90, même début des années 2000. Puis après, on n'en a plus parlé.
Alors, je précise que au moment où on enregistre cette émission, on ne sait pas encore les résultats des législatives des 30 juin et 7 juillet. Donc ça reste ouvert, mais en tout cas la question de Léon effectivement porte sur l'acceptabilité de certaines mesures et donc la représentation par la représentation nationale et de nos deux assemblées. Donc à suivre, nos auditeurs en savent peut-être plus que nous, mais en tout cas on retient qu'il y a une possibilité par la TVA. Est-ce que tu veux bien nous parler de
la deuxième possibilité, elle avance un petit peu parce que j'ai lu le programme du nouveau Front populaire. Et dans le nouveau Front populaire, il est indiqué dans ce programme que dans les 15 premiers jours, dans les 3 premiers mois, je ne sais plus, mais tout à fait au début de l'accession au pouvoir, si la gauche passe, ce qui n'est pas du tout certain, mais si la gauche passait, normalement, et s'il respectait aussi, c'est leur programme, il y a le rétablissement de l'impôt sur la fortune. Et ça, c'est intéressant parce que l'impôt sur la fortune, c'est un impôt qui est prélevé sur les personnes qui, a priori, n'ont pas besoin de travailler pour vivre et pour vivre très bien. Et donc, cet impôt-là est un impôt qui est, d'une certaine façon, justifié par le fait que les gens qui sont propriétaires d'un gros capital sont des gens qui profitent d'une certaine façon du respect de la propriété privée par l'ensemble de la société. J'entre un petit peu dans les détails là-dessus, mais c'est vrai que quelqu'un qui est propriétaire de plusieurs maisons ou plusieurs dizaines d'immeubles profite de la protection de la police, il a acheté ça, il y a les notaires qui lui ont servi d'assurer leur propriété, il y a la justice qui fait que quand quelqu'un vient squatter, les gens sont expulsés, puis il y a la police, etc., qui vient protéger finalement le capital. Et donc je trouve normal que pour garder leur capital, ils puissent participer d'une certaine façon au maintien de ce capital. Et cette participation l'ensemble du capital avec des taux qui sont variables et progressifs. Et on peut tout à fait concevoir un impôt sur le capital pour que le maximum de personnes passe et pour que le revenu de base soit accepté par tout le monde, pour que cette allocation universelle soit quelque chose de populaire. Il faut que tout le monde se sente avantagé, gagne quelque chose à cela. Mais il faut bien sûr le payer. Et donc, pour pouvoir le payer, il y a bien sûr la TVA, on en a parlé, ça correspond en gros à la moitié de ce que coûte ce revenu de base. L'autre moitié, c'est l'impôt sur le capital qui ne peut être que progressif pour qu'il soit juste. Et bon, moi je propose, mais ça c'est des choses à discuter de façon démocratique, hein. Mais je propose par exemple qu'il n'y ait pas d'impôt sur le capital de 0 à 100 000 euros. Jusqu'à 100 000 euros, ben, on ne fait pas partie des riches. C'est bien d'avoir 100 000 euros, d'avoir une petite maison, un petit appartement, etc. Mais on ne fait pas partie des riches, il n'y a pas de raison qu'à ce niveau-là, on paye un impôt sur le capital. Mais de 100 000 à 1 million d'euros, je parle toujours par personne, hein. C'est pas pour un couple, c'est pas pour un foyer fiscal, c'est par personne. Ce qui veut dire que quand je dis 100 000 euros pour un couple, monsieur et madame, c'est 50 000 euros chacun, s'ils sont en équivalent de propriété. Hein, donc, on commence à payer un impôt sur le capital à partir de 100 000 euros par personne, au-delà de 100 000 euros. Et de 100 000 euros à 1 million, on peut dire que c'est 1%. De 1 million à 10 millions, à chaque fois que ça multiplie par 10 ce capital, on augmente de 1% cet impôt.
Ça va.
Et ce qui veut dire, bon, de 100 000 à 1 million, 1%, de 1 million à 10 millions, 2% sur la partie qui dépasse le million, de 10 millions à 100 millions, là il y a déjà beaucoup moins de monde, mais il y en a encore. On est à 3%, et puis 100 millions à 1 milliard, là ça se compte par dizaines, et au-delà de 10 milliards, et au-delà de 100 milliards, parce qu'il y en a encore. À 100 milliards, on a encore quelques Français qui ont une richesse supérieure à 100 milliards. Et là, on a à chaque fois, on augmente de 1%. Et avec un impôt tel qu'il est conçu comme ça, on a à peu près l'équivalent de ce que rapporterait la TVA comme elle a été calculée pour donner à la caisse du revenu de base, c'est-à-dire l'équivalent encore de 400-450 euros. Merci. Sur les richesses actuelles et en fonction. Moi, j'ai regardé simplement tout ce qui était indiqué par les statistiques, enfin ce qui sort du journalisme, parce qu'en France, on n'est pas obligé de déclarer sa fortune. Il n'y a pas d'impôt sur la fortune, donc on ne sait pas précisément ce que les gens ont. On sait que Bernard Arnault, il y a des gens qui sont très contents de ça, Bernard Arnault, il aurait plus de 220 milliards d'euros de propriété. Voilà, c'est ce qu'on dit. Puis il y en a d'autres, hein, il n'est pas le seul. Et à partir du moment où il y a un impôt comme ça, même pour ces gens-là, d'une certaine façon, moralement, c'est quelque chose qui devrait les rassurer. S'ils ont un esprit et un cœur normalement formés, ils devraient être rassurés de se dire « nous participons aussi au bonheur et à la stabilité de notre société ».
Merci.
Voilà.
Oui, bah, en fait, moi, j'ai toujours un petit peu de mal avec cette histoire de financement par la TVA. Parce qu'en fait, actuellement, la TVA, c'est sans doute un des impôts les plus injustes à mes yeux, vu que, effectivement,
oui.
Tout le monde le paye, mais la plupart des, on va dire, des grandes fortunes ne payent finalement que très peu de TVA par rapport à leurs revenus mensuels. Il faut juste citer que, bah, il y a un certain nombre de, une maison, il n'y a pas de TVA dessus, un tableau d'art, il n'y a pas de TVA spécialement dessus non plus. Il y a beaucoup, beaucoup de choses de niche qui existent et qui sont
exclues. Mais je vais revenir sur cette histoire de TVA, parce que c'est vrai que toutes les personnes relativement pauvres payent beaucoup de TVA proportionnellement. Mais on va leur redonner à toutes ces personnes 900 euros, c'est-à-dire beaucoup plus que ce qu'elles auront payé de TVA pour leur consommation habituelle. C'est une façon de dire aux gens, tout le monde participe, tout le monde abonde cette caisse commune du revenu de base. Et alors, ce que je voudrais dire aussi, parce qu'il ne faut pas rater ces choses-là, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'État qui récupère la TVA, c'est l'État qui récupère l'impôt sur la fortune. Moi, je pense qu'il faudrait une caisse spéciale, comme les caisses de sécurité sociale, pour que ce soit géré directement par l'ensemble de la population. Il y a d'un côté le budget de l'État et de l'autre côté la caisse commune de l'allocation universelle, comme on a la caisse des allocations familiales, comme on a la caisse des accidents du travail, la caisse pour la santé, les caisses de retraite, etc. Que ce soit quelque chose d'indépendant. Et l'avantage de la TVA, pour le revenu universel, pour cette allocation universelle, c'est qu'elle suit l'inflation. À partir du moment où les prix augmentent, la TVA qui est proportionnelle au prix de 20% permet de suivre l'inflation, et ça veut dire que les revenus de base suivraient aussi l'inflation. C'est une façon de garantir le pouvoir d'achat de ce revenu de base.
Bon, en tout cas, ce que j'entends, c'est que le fondement de ton projet, c'est effectivement cette espèce de sentiment d'appartenance à une communauté, voilà, on va dire française, pour garder ce périmètre-là pour l'instant, que ce soit pour les plus appauvris, ceux qui sont appauvris par la société, qui ont quand même le sentiment de participer et de pas recevoir une charité. Voilà, dire bah voilà, quand j'achète mon pain, bah je participe à ce flux de sang dont tu parlais tout à l'heure, voilà, en mettant en fluidifiant aussi, et les plus riches qui auraient quand même une sorte de plus-value, parce que voilà, comme ils reçoivent bien au-delà de leurs besoins, le 1%, voilà, comme tu nous l'as expliqué, c'est largement dans l'acceptabilité. J'ai envie de rappeler quand même aussi que il n'y a pas très longtemps, les hauts revenus payaient beaucoup plus, donc il y avait un ISF, et même aux États-Unis il y a eu un impôt sur le revenu qui était beaucoup plus important et qui était tout à fait accepté par, entre guillemets, les plus enrichis de notre société. Et même que je vous réfère à une émission de Blast animée par Salomé Sacquè, qui rappelait qu'il y a même des pétitions d'ultra riches qui réclament d'être plus prélevés, parce qu'ils estiment que ils pourraient donner plus à la société, plutôt que de le faire à la mode un peu américaine, sous forme de fondation, de je suis généreux et donc je repartage.
Le parti politique, hein.
Aussi, oui. Donc voilà, parce que je suis généreux, je redonne, etc. Voilà, que ce soit fait sous forme d'un prélèvement, parce qu'on fait partie d'une société.
C'est vrai qu'on est dans une société où on accepte les riches, parce que les riches peuvent dire, voilà, moi je paye la fondation machin, j'ai la fondation Intel, et je donne de l'argent. Aux États-Unis, l'impôt sur le revenu, à un moment, a dépassé les 90%. 90% des revenus étaient imposés.
Et c'était accepté.
Et ça a marché, et ça n'a pas empêché la société de croître des années 1935, de Roosevelt jusqu'à... Ça a duré jusqu'à l'arrivée de Reagan aux États-Unis. Et donc, effectivement, les gens qui gagnent beaucoup d'argent, le niveau de vie est le même, hein, que quand tu as des milliards, tu ne fais pas attention de savoir quel est ce qui te reste pour consommer. C'est de toute façon une toute petite partie de ce que tu gagnes. C'est pas la consommation de ces gens-là. Ces gens-là ont de l'argent pour plusieurs générations qui vont suivre. C'est pour ça que c'est une question de justice. C'est pas tellement une question de... Moi, il y a toujours des choses qui m'ont un peu gêné. Par exemple, quand on parle de... Même pour les hôpitaux de Paris, ça s'appelle hôpitaux de Paris, assistance publique. Tu vois, on pourrait dire hôpitaux de Paris tout court, hôpitaux de Marseille, hôpitaux de Paris, etc. Non, on a rajouté assistance publique. C'est une sorte de résidu de l'époque où les riches pouvaient faire du bien aux pauvres. C'est un peu une façon de dire, il y a des gens qui ont des droits et des gens qui n'ont pas de droits, mais ceux qui ont beaucoup de droits peuvent donner un petit peu, faire la... Tu vois, c'est toujours un peu embêtant. Le revenu de base, ça doit être un droit. Et si c'est un droit, tout le monde participe, tout le monde reçoit, et les fortunes qui se sont accumulées en général, travail, un petit peu par le travail, bien sûr, on va dire, il y a toujours l'exemple du type qui a créé Google dans son garage et machin. Mais globalement, l'argent s'est accumulé tout simplement parce qu'il y a un effet de récupération des biens communs. La culture des gens, tout ce qui a été inventé sur Terre avant notre naissance fait partie de notre richesse. C'est des choses qui appartiennent à l'humain. Et à partir de ce moment-là, c'est normal que chaque humain en reçoive les dividendes, d'une certaine façon. Les dividendes, c'est les bénéfices, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris ce mot.
Merci. Une question de Léon ?
Pardon ?
Une question de Léon.
Ah. Alors, ma question est toute simple. Vous parlez de mettre un impôt sur les capitaux, sauf que, je prends l'exemple de la France, du coup, la plupart des grandes fortunes françaises, enfin de gens qui ont la nationalité française, sont sur d'autres pays, par exemple la Suisse ou Chypre. Est-ce que vous ne voulez pas plutôt faire une taxation des super-profits plutôt qu'un simple impôt sur les capitaux?
Alors, là, je peux te répondre, effectivement. Tu sais, c'est très compliqué de savoir quels sont les vrais profits d'une entreprise. Parce qu'une entreprise, les grosses entreprises, elles sont situées dans des quantités de pays et elles ont tendance à déclarer leurs profits dans le pays qui leur prend le moins d'impôts possible. C'est le cas, par exemple, de Google, etc., qui ont leur siège social en Irlande, parce qu'en Irlande, il y a peu d'impôts sur les profits. Hein, je crois que c'est inférieur à 15%, alors qu'en France, c'est de l'ordre de 28%, je crois. Quelque chose comme ça. Alors que sur le capital, on le connaît, on sait. On sait à qui appartiennent telles sociétés, on sait quelles sont les personnes. Et une entreprise riche, moi, ça me gêne pas trop. Ça me permet qu'elle crée de la recherche, qu'elle crée des nouveaux produits, qu'elle protège l'environnement. Ça peut être toutes sortes de choses. Par contre, quand c'est un profit individuel d'une personne, bah, il s'achète un yacht, il s'achète des maisons avec des piscines un peu dans toutes les grandes capitales du monde, etc. Et on peut connaître ses propriétés. Et donc, on peut les taxer. Et taxer le capital à des taux relativement faibles, hein, puisque c'est 1, 2, 3%, c'est pas comme l'impôt sur le revenu qui peut aller jusqu'à... En France, c'est 45%, je crois, la dernière tranche. L'impôt sur le capital, c'est quelque chose de concret. On sait ce qu'on a, on sait de quoi on est propriétaire. Les très riches, ils ont des comptables pour faire le calcul de tout ce qu'ils possèdent. Et à ce moment-là, on calcule sur l'ensemble du capital. Et si M. Bernard Arnault a 80% de ses propriétés à l'extérieur de la France, il sera imposé sur l'ensemble de son capital, comme ça se passe aux États-Unis. Hein. Un Américain qui possède des choses en Espagne, en Italie, en Angleterre, sera imposé sur l'ensemble de ses capitaux. Simplement, on déduira de ses impôts aux États-Unis ce qu'il aura payé sur le capital dans les autres pays. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait facile à faire. Et aujourd'hui, avec la possibilité de suivre les transactions financières, il n'y a pratiquement aucun problème. Même Cahuzac, qui a essayé de tricher, il était pris la main dans le sac.
Et ce que j'entends aussi dans ta proposition, et en tout cas dans son intention, c'est de se rappeler que ces personnes très riches, alors comme tu l'as bien dit, et ben elles se sont d'abord enrichies grâce à notre patrimoine commun, grâce aussi au travail des autres, voilà, parce que concrètement, avec leurs petits bras, elles ne seraient pas arrivées là, et aussi qu'elles profitent d'un système basé en France, en tout cas, sur des systèmes, des services publics qui permettent à tout et chacun d'avoir un certain niveau d'éducation, de formation, de santé, sur lesquels eux ne payent pas. Ils n'ont pas besoin de payer comme ça a pu être le cas dans certaines cités minières, etc. Donc là, ils profitent du système public et grâce à cet impôt sur leur capital, du coup, ils rendent en partie une forme de reconnaissance aussi de ce qu'ils reçoivent.
Ils rendent en partie ce dont ils ont profité toute la vie. Et les grandes richesses en France, en fait, ce sont essentiellement des richesses qui ont été obtenues par héritage. C'est parti en général d'un seuil d'héritage qui a permis de s'enrichir encore plus. C'est pas le travail, il faut pas croire que monsieur machin, il a fait une invention géniale, s'est mis au boulot et a gagné beaucoup d'argent comme ça. Il y en a un peu, on m'a parlé de monsieur L'Oréal qui a inventé les colorations pour les cheveux. Ce monsieur, il y a quelques dizaines d'années, a gagné de l'argent comme ça, mais sa femme, sa machin se sont enrichis de façon exponentielle à partir de ce premier capital qui avait été accumulé et sans aucun travail, sans aucun travail. Et donc, c'est normal qu'ils puissent rendre en partie ce dont ils ont profité. Et surtout, tout au long de la vie, en fait, ils rendront l'ensemble. Parce qu'un impôt sur le capital de 1%, 2%, etc., fait que pour une personne qui vit 60, 70 ans, il aura rendu, d'une certaine façon, son capital à la société. Et ça, ça me paraît quelque chose de tout à fait juste et tout à fait possible. La vraie question qu'on pose à propos de la TVA...
Excuse-moi, journaliste,
On supprime la TVA pour l'État... C'est une perte pour l'État de l'ordre de 200 milliards d'euros pour la France. Je parle pour la France, mais dans tous les pays, c'est à peu près dans les mêmes proportions. Si on reprend ces 200 euros pour les redistribuer à toute la population, l'État a besoin d'argent. Et cet argent-là, que l'État ne recevra pas par la TVA, il faudrait qu'il le récupère, et il l'a déjà, d'une certaine façon, parce que l'État donne aujourd'hui aux entreprises l'équivalent de ces 200 milliards d'euros. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bas salaires qui sont subventionnés par l'État. Ils payent moins de charges sociales, il y a des aides, etc. À partir du moment, et ce qui permet aux entreprises de garder leurs employés. À partir du moment où il existe un revenu universel de 800-900 euros, on peut demander aux entreprises de payer les gens à leur propre, avec leur propre argent et pas avec l'argent de l'État comme c'est le cas aujourd'hui. Et les aides de l'État aux entreprises aujourd'hui correspondent grosso modo à l'équivalent de ce que la TVA rapporte à l'État. Et donc c'est tout simplement une question de, comment dire, de remise à niveau, de dire aux capitalistes, voilà, vous achetez du travail des personnes, vous payez ce travail en fonction des besoins de cette personne. Et si jamais vous n'arrivez pas à payer, c'est que votre entreprise n'est pas rentable, il n'y a pas de raison qu'elle perdure, il n'y a pas de raison qu'elle continue. Sachant que de toute façon, les gens ont toutes leurs 900 euros pour vivre, quoi qu'il arrive. Et donc on n'a pas besoin d'aider les entreprises. Moi j'ai été un petit peu choqué au moment, je ne sais pas si vous vous souvenez du Covid, où les gens continuaient à recevoir leur salaire. Et ils recevaient leur salaire par l'intermédiaire de leur entreprise. Et leur entreprise demandait à l'État l'équivalent de ce salaire. Les gens restaient chez eux à regarder, à profiter, en regardant par les fenêtres pour applaudir les infirmiers. Mais ils recevaient quand même leur salaire, et leur salaire arrivait par leur entreprise. Ça m'a toujours un peu choqué, parce que c'est l'État qui payait. L'État aurait pu envoyer directement à tout le monde cet argent. Il ne l'a pas fait, il est passé par les entreprises. Donc en France, on a une sorte de mainmise de cette idéologie capitaliste comme quoi il y a ceux qui proposent du travail et ceux qui ont besoin de travailler pour vivre. On dit c'est les employeurs. Le mot employeur ne veut pas dire grand-chose.
Je propose une petite pause musicale.
Oui.
Avant de voir les plus petits pas possibles pour aller vers consécration de ta version.
Et je vous ai sélectionné la chanson de Pang, Fais-le, parce que c'est vrai que faire les choses soi-même, c'est aussi une façon d'éviter de payer de la TVA. Alors.
Eh oui.
Plein de produits locaux, c'est sain, de paniers bio. Viens, rejoins le réseau. Tiens, prends ta part du gâteau, c'est effectif. On se mobilise en collectif, on se galvanise. Nord, sud, autour de la table pour relever le défi du commerce équitable.
Je l'ai fait avec mes mains, ça sort pas du magasin. C'est une pièce unique, pas une énième réplique. Une chose qui a surgi dans ma tête, qui aujourd'hui est bien faite, qui me rend fier de moi, de ce que je sais faire avec mes doigts. Quel plaisir de profiter de ce qu'on a créé, que ce soit du miel, une table ou de quoi se maquiller. C'est sûr que c'est pas parfait, mais c'est moi qui l'ai fait.
Ouais, c'est lui qui l'a fait. Que la lumière soit et la lumière fut. Que la terre soit et la terre fut. Un peu de vert par-ci et beaucoup de bleu par-là. Mon boulot, c'est trop chouette. Moi, je crée des planètes dans la glace. J'insuffle la braise de la vie. Et mon monde fleurit. À mon image, je vous ai modelé. Prends le pouvoir de l'univers. À toi de faire.
Plus rien à bouffer, les boulangeries sont fermées. Dans mon placard, j'ai que de la farine de blé complet. Au sel et le vin, une heure après, j'ai fait mon pain. Deux pas dans le jardin, je cueille tomates et mesclins. Les graines, c'est un cadeau du voisin. À le blanc qui débarque avec ses falafels au cul, main. 100% fait main. Tel sera notre festin, ouais.
Si tu veux un vélo, fais-le. Si tu veux un gâteau, fais-le. Si tu veux une sucette, fais-la. Si on t'en empêche, bouge-toi le derche. Si t'as des cruches, fais-les. Que t'as chaud, que t'as séché, fais-l'eau. Que t'as les crocs, t'en peux plus, fais-lui. Si t'es un chat, fais-l'un. Que tu veux grandir, fais lion. T'aimes dormir, fais lit. T'es jouette, fais-loi. Fais ton pain, fais le vin, fais du vin, fais le bien. Puis fais le malin, fais en mandarin. Fais ta main, fais du lien, fais du gras à ta fêtien. Fais un rien, on s'en fout ou sois fou, fais tout.
I wanna do it. yes, I'm gonna do it. I wanna do it, yes, I'm gonna do it. Do it, do it, do it, do it. Do it, 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 do it.
C'était Pang sur les ondes de Radio Campus 106,6 pour la fin de cette émission Tous Essentiels, l'émission du revenu de base.
Alors une toute petite précision, parce qu'on a parlé beaucoup des impôts sur le capital et les revenus. Je rappelle que pour l'instant en France, on fonctionne sous forme d'impôts par tranche. C'est-à-dire que quand on dit 90% d'impôts pour les plus riches, c'est pas sur tout leur capital ou sur tout le revenu, c'est sur leur dernière tranche. Donc par exemple, si on se dit avant 100 000, personne ne paye d'impôts sur le capital, même pour les riches, avant leur premier 100 000, ils paieront pas d'impôts. Ils commenceront à payer d'impôts sur les tranches suivantes. Je précise parce que la plupart des gens ne savent pas ce que c'est que ce système d'impôts par tranche. Et j'avais une petite dernière question à te poser, Jean-Noël, avant de passer au plus premier petit pas possible. C'est ouais. Cette question justement du niveau de TVA, parce qu'aujourd'hui, on a quand même une TVA qui est proportionnelle selon si c'est des produits de nécessité, elle est très basse, et si c'est des produits de luxe, effectivement, elle va être plus haute. Est-ce que c'est un fondement de ta version d'avoir une flat TVA ou est-ce que tu peux garder ça parce que sinon ça pourrait ressembler à une régression sociale?
Oui, non, c'est vrai que le problème de la TVA est à discuter de façon démocratique. On pourrait tout à fait concevoir une TVA un peu plus basse pour les produits de première nécessité, mais je crois que ça ne changerait pas grand-chose. Très franchement, ça ne changera pas grand-chose parce que la TVA sur les produits de première nécessité, qui sont des produits peu chers par définition, représentent pas grand-chose dans le budget d'une famille. On peut tout à fait concevoir une TVA à taux plus faible. Ce qui est compliqué, c'est à partir du moment où dans le même produit, tu as plusieurs taux de TVA différents. Et ça implique une comptabilité qui peut être un peu, pour des petites entreprises, un petit peu compliquée.
Après, si on peut simplifier en se disant qu'on souhaite à tout le monde de pouvoir manger bio, on pourrait leur dire...
Normalement, à partir du moment où on a un revenu donné à tout le monde, il ne devrait plus y avoir tellement de problèmes. Mais tu as eu raison par ailleurs de préciser effectivement qu'on réfléchit par tranche d'impôt. La première tranche, l'impôt sur le revenu par exemple, il est de 0% jusqu'à en gros 10 000 euros de revenus par an. Et puis ensuite, une tranche de l'ordre de 10%. Sur cette tranche-là, on ne paie que ce qui dépasse les 10 000 euros sur l'année, etc. Et pour le revenu, les impôts sur le capital, c'est la même chose. On peut considérer que... Alors, le plus simple, pour parler des revenus de base, plutôt que de parler de TVA, taxe sur la valeur ajoutée, on ferait mieux parler de contribution sur la valeur ajoutée, puisque c'est redonné à tout le monde. Et c'est redonné dans une caisse qui ira, une caisse spéciale comme la caisse des allocations familiales. Et l'impôt sur le capital aussi, on pourrait l'appeler aussi contribution sur l'actif net, c'est-à-dire l'ensemble de ce que les gens possèdent. Tout ce qu'ils possèdent, moins leurs dettes. Puisqu'on retire les dettes pour savoir ce que tu possèdes réellement, c'est ce que tu possèdes, moins ce que tu dois.
Alors, voilà. Pour toi,
qu'on peut rajouter, pour que ce soit plus simple et compréhensible par tout le monde, c'est que cette caisse qui s'approche de la caisse de la sécurité sociale permettrait de redonner cet argent sous forme d'argent liquide, pour passer sur un compte, mais même sous forme d'argent liquide grâce à la carte vitale. Je trouve que la carte vitale, ils ont trouvé un beau nom pour ça.
C'est-à-dire...
C'est la carte qui permet d'aller à la pharmacie, d'avoir les médicaments sans payer directement. Cette carte vitale pourrait aussi nous permettre d'aller dans un distributeur de billets et recevoir, si on veut tout de suite, les 900 euros au début du mois, recevoir ces 900 euros. C'est quelque chose qui serait tout à fait possible.
Et alors, du coup, pour toi, les premiers petits pas possibles, ce serait quoi?
Alors, le premier petit pas qui pourrait se faire de façon très rapide, c'est déjà à partir de l'impôt sur le capital, si le nouveau Front populaire arrivait au pouvoir, je mets encore plein de points d'interrogation derrière ça, ils ont décidé dans les 3 premiers mois ou dans les 15 premiers jours de rétablir un impôt sur le capital. Il n'y a pas beaucoup de détails là-dessus. Mais cet impôt sur le capital pourrait être immédiatement donné dès le 1er janvier 2025, donné à l'ensemble de la population les 400 euros, toutes les personnes au-delà de 18 ans, qui permettraient déjà de montrer qu'on arrive dans le concret, qu'on approche quelque chose de concret, sachant que pour la TVA, effectivement, c'est des réformes beaucoup plus importantes, et ces réformes plus importantes et le passage du budget de l'État vers le budget de la Sécurité sociale demandent peut-être un référendum, mais un référendum qui devrait être normalement approuvé, parce que l'ensemble de la population, à part les quelques centaines de milliardaires qui auraient quelque chose à perdre, ils recevraient bien sûr leur revenu de base, mais ils paieraient beaucoup plus en impôts que le revenu de base qu'ils recevraient. On devrait avoir une immense majorité de personnes qui, pour le reste, on ne change rien. Ils ont toujours leur salaire, ils ont toujours la possibilité, il y a même des petites combines de travail au noir. Tout ça, on sait que ça existe, mais pour eux, ça ne change rien. On donne à toute la population l'équivalent du minimum qui permet de vivre.
Et il y aurait sans doute moins de travail au noir, dans le sens où il y a moins de raisons qu'il y en ait, et ça permettrait aux personnes qui travaillent, du coup, plus au noir, d'être sécurisées, d'avoir
absolument
toutes les sécurités qui vont avec
la retraite. À partir du moment où les gens sentent que la société est juste, eh bien, on triche moins. Le sentiment de justice, c'est quelque chose qui est profondément ancré chez les femmes, chez les hommes, etc. On a tous besoin de justice. Et à partir du moment où cette justice est acceptée, ben on ne va pas essayer de resquiller. Les gens, quand ils font la queue au cinéma, en général, si quelqu'un passe devant, ben les gens qui sont derrière commencent à râler un petit peu. On est dans une société où, si tout le monde triche, effectivement, chacun se dit « bon, j'ai le droit de tricher parce que les autres font pareil ». Un revenu universel, c'est une façon aussi de donner de la force à la citoyenneté.
Tout à fait. Alors pour ceux qui en douteraient, je vous renvoie à la carte des expérimentations sur le site revenudebase.info, et où on voit que parmi les effets, il y a effectivement une participation à la société, un sentiment d'appartenance, un nouveau contrat social, en fait, on peut le dire comme ça, que ce soit par rapport à la délinquance, par rapport au nombre de votants, etc.
Parce que toutes les expériences ont montré que cette allocation universelle avait permis à beaucoup de personnes de reprendre des études et même de reprendre un travail. Des gens qui n'avaient pas de travail, qui étaient un peu désespérés, etc., à partir du moment où elles ont un revenu qui leur permet de vivre, ils peuvent se dire « je vais faire ça parce que ça m'intéresse », etc. Oui. Et ils reprennent un travail.
Oui, ça rebooste l'économie au niveau des
micro-entreprises. Ça a exactement l'effet inverse.
Tout à fait. Alors, je voudrais qu'on clôture cette émission sans oublier de reciter ton livre, Caisse commune pour une allocation universelle, sous-titrage Pour une révolution des prélèvements sociaux et fiscaux. Et si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie sur notre site revenudebase.info, mais aussi sur notre chaîne YouTube, revenudebase.fr, où parmi les agora, vous retrouverez Jean-Noël Marzeau, toi-même, et pendant 2 heures, avec un PowerPoint très très clair, où vous retrouverez tous les détails et plus de tout ça. Un grand grand merci, Jean-Noël.
Eh bien, merci à vous tous. Hein.
Avec plaisir.
Merci aux auditeurs. Merci à toi, merci à Max.
Bonne fin de journée, et puis nous on se retrouve le mois prochain, sans aucun doute.
Ben oui, et on se retrouve aussi aux états généraux du revenu de base, les 9 et 10 novembre, à Givors, près de Lyon, pour repartager toutes ces bonnes nouvelles avec plein d'autres.